Ik ging toen op. En dan kunnen we terug waar ik een ging om aan kant te voorzien, is dat wel. En dat is wel een probleem van mankelaar. We hebben dat soms wel, dat je het amour et le bien. Ik te juger beaucoup plus important, plus profitable. En d'autres termes, l'historique de Satan. Inclut peu de mots qui nous appartiennent de comprendre uniquement à la lueur de quelques grands concepts qu'ils évitent. Par nature, il est un des fils de Dieu, c'est-à-dire un ange. Après être tombé, et par le canal de sa propre force, il devient un dirigeant de force anarchique du mal. En tant qu'être libre, il se lie à ce mal au point de se personnifier à lui sans espoir de retour. Sa haute intelligence lui permet d'acquérir une grande puissance qu'il exerce dans une large mesure sur d'autres êtres. On peut aller jusqu'à dire qu'en tant qu'être créé, le niveau extrême de sa puissance se limite à ce qui est humainement tolérable. Ses frontières se situent là où débute celle du gouvernement providentiel de Dieu. Il est donc essentiellement restreint dans ses entreprises. La Bible met très souvent l'accent sur l'élément de fausseté foncière de la carrière de Satan, au point qu'on peut en déduire que son domaine est bien moins étendu qu'on pourrait l'imaginer à première vue. De toute manière, l'influence exercée par Satan est limitée dans l'espace à notre sphère. Le temps lui est également compté, puisque nous savons qu'il est jugé et condamné déjà. Pierre écrit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Jude parle des anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur propre demeure. Il précise qu'ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres pour subir la peine d'un feu éternel. Jésus, quant à lui, dit de Satan qu'il a été meurtrier dès le commencement. Luc chapitre 8, verset 44, et l'apôtre Jean affirme que le diable pêche dès le commencement. Concernant son caractère et ses attitudes démoniaques, nous savons par la Bible qu'il est l'incarnation même du mensonge. Jésus dit que la vérité n'est pas en lui. Il est le père du mensonge. Les noms divers qui lui sont appliqués dans la Bible révèlent sa force. Bien qu'il soit un ange déchu, il n'en est pas moins appelé péjorativement à trois reprises par le Seigneur, prince de ce monde. Satan est un personnage dont le rang et la puissance ne peuvent être mésestimés, nous dit Jude, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse. L'archange Michel n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Il est également nommé le Dieu de ce siècle, car les hommes l'obéissent et l'adorent même inconsciemment lorsqu'ils ne suivent pas les conseils de Dieu. Paul nomme en outre Satan le prince de la puissance de l'air, ce qui prouve l'existence de puissances maléfiques dans une certaine quantité d'espace entourant notre globe. Un commentateur biblique dit à ce propos qu'il semble bien que les forces sataniques trouvent leur siège dans l'atmosphère du ciel, c'est-à-dire dans l'espace se situant au-dessus et autour de notre monde. Ces forces particulières sont explicitées par l'histoire de Job, qui voit sur l'ordre de Satan un éclair tomber du ciel et consumer ses troupeaux, puis un vent de tempête abattre sa maison et tuer ses enfants. Ces attaques contre les êtres humains valent au diable le nom de tentateur. Par ailleurs, le délice qu'ils ont éprouvé en tentant les hommes à ne pas accomplir la volonté de Dieu semble évident. Le nom « diable » lui est attribué à de nombreuses reprises, et il est intéressant de remarquer que dans la Bible, ce qualificatif ne s'utilise jamais au pluriel. Il s'adresse exclusivement à Satan lui-même. Le mot hébreu équivalent à Satan apparaît 35 fois dans le Nouveau Testament et s'utilise indifféremment avec le nom grec Diabolos, qui se trouve également 35 fois dans la Nouvelle Alliance. Diabolos signifie séparateur et divinateur. Encore celui qui accuse une magnanimité. En effet, il essaye sans cesse de séparer la race humaine de son créateur en utilisant tour à tour la haine, la malice, l'envie et la jalousie, comme par exemple dans le Jardin d'Éden. Il est tout spécialement appelé l'accusateur des frères, l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Satan reçoit aussi les épithètes de dragon et ancien serpent en Apocalypse, ou encore celui qui séduit toute la terre. Les diverses attaques qu'il exerce contre Jésus dans le désert témoigne de la puissance qu'il pratique dans le monde. Le Seigneur est emmené par l'Esprit dans cet endroit inhabité pour être tenté par le diable. La dernière tentation qu'il est subi consiste notamment à se voir monter tous les royaumes du monde habité. Et là, Satan va dire à Jésus, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Cette condition effarante, le diable la pose à Jésus. Tout ce qu'il possède ne lui suffit pas. En plus, il veut, il meurt d'envie même, d'être adoré. L'étendue de son pouvoir sur tous les royaumes habités, le Fils de Dieu ne va pas lui contester. Plus tard, Jésus va même jusqu'à parler du royaume de Satan, lorsqu'il affirme « Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il » Et il ajoute « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, c'est bien sûr en sûreté, mais un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Nous comprenons maintenant la pleine signification de la phrase prononcée par Jésus dans sa prière « Délivre-nous du malin ». L'apôtre Jean nous montre également l'universalité du règne de Satan lorsqu'il écrit « Le monde entier est au pouvoir du malin ». Satan se confond avec les ténèbres dont il fait son domaine particulier. Paul ne dit-il pas également « N'avons-nous pas à lutter contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes ?» Les Écritures ne font pas de distinction entre haut et bas ou entre être cultivé et ignorant lorsqu'elles disent que le monde entier, c'est-à-dire paganisme et christianisme, se situe dans le domaine, dans le royaume du malin. Dans les pays non chrétiens, le diffamateur ose développer toute l'étendue de sa tyrannie en maintenant grossièrement et outrageusement l'individu dans son péché. En zone civilisée, le Dieu de notre époque est contraint d'agir avec davantage de précaution. Tout est soigneusement distillé, voilé, masqué dans son œuvre de sape. On remarque cependant qu'au plus les mœurs se relâchent, au plus le prince de ce monde temporel se manifeste ouvertement, le terrain redevenant fertile, il y sème ses idées avec un succès qui va aller en grandissant. L'adversaire dirige des organisations structurées. L'apôtre Paul les désigne sous le nom de principauté, pouvoir, dominateur des ténèbres d'ici-bas. La Bible utilise encore les termes de trône de Satan, ses serviteurs, les esprits du mal dans les lieux célestes. Le récit de l'entretien de Daniel avec le messager de Dieu démontre que ces principautés et ces dominations sataniques couvrent des territoires étendus et déterminés. En effet, le chef du royaume de Perse résiste violemment au messager divin. Il va même poursuivre cette lutte dans un futur proche, et dès cette fois par le prince de Grèce. Par conséquent, le diable règne sur une zone presque céleste, dans le sens spatial, et sur un royaume terrestre et humain qu'il dirige à l'aide d'un gouvernement organisé à la fois dans le temps et dans l'espace. Nous ne pouvons toutefois perdre de vue que toutes ces multitudes sont condamnées à devoir un jour reconnaître la souveraineté du Seigneur de l'univers. Le jour arrivera où il n'y aura plus que des incroyants sur terre. Les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ils tremblent. Ils savent pertinemment bien qu'un jugement terrible les attend. Cette fameuse direction de l'adversaire est basée sur une sorte de religion à laquelle viennent se joindre tous ceux qu'il peut duper, établissant ainsi une parodie de culte, dont l'adoration n'est due qu'au seul vrai Dieu. La première épître aux Corinthiens révèle un des aspects de la volonté et de la religion de Satan qui n'est en réalité qu'une vaste vénération d'idoles apparentes, non. Ceux qui veulent suivre la volonté de Dieu ne doivent pas être en communion avec les démons et se tenir loin de l'idolâtrie. La question vitale que cela représente pour les Corinthiens l'était tout autant en ce qui concerne tous les autres chrétiens. Comme le dit Paul, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, la coupe des démons. La viande mise en vente au marché avait tout d'abord été offerte aux idoles et certains chrétiens de Corinthe acceptaient des invitations à festoyer dans les temples païens en l'honneur des dieux païens, ce qui représentait des actes d'idolâtrie caractérisés. Par là, nous voyons comment l'archange déchu non seulement abuse et maintient la race humaine dans les ténèbres, mais ajoute encore à sa destruction spirituelle en cherchant à répondre à leur désir d'être. être le sujet d'une adoration, concept primitif qui sommeille dans le cœur de chacun. Satan connaît très bien les façons dont il doit s'y prendre pour atteindre certaines religions dans leurs aspirations les plus profondes. Paul écrit aux Romains, « Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. » Ce disant, il montre une fois de plus qu'aucun acte, rite extérieur ou accomplissement cérémonial d'une loi fondamentalement spirituelle n'est acceptable aux yeux de Dieu. Le diable le sait très bien, mais tente malgré tout de persuader les humains et que l'observance même spirituelle et superficielle de certaines règles est suffisante. Il entretient ainsi des multitudes de gens dans un faux climat de quiétude en les laissant croire que les vaines cérémonies auxquelles ils participent et que les paroles incantatoires sans cesse répétées sont approuvées par l'Éternel. Dans son message à l'église de Smyrne, le Christ parle de ceux qui se disent juifs et ne sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Cela nous laisse supposer que non seulement l'adversaire possède une sorte de religion organisée, mais que certains l'adorent par le canal de représentation matérielle. C'est ce qui fait encore dire Paul aux Corinthiens, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. L'apôtre Jean écrit lui aussi dans le même sens. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean chapitre 1, verset 1 et 6. D'ailleurs, les mots les plus durs qu'on ait jamais prononcés, et c'est Jésus qui va les prononcer à propos des pharisiens, ne sont-elles pas? Ils disent et ne font pas. Serpent, race vipère, comment fuirez-vous la condamnation de la gêne? Mais je suis persuadé que cela ne s'adressera jamais